C'est à l'occasion d'un coffret magnifique de 14 DVD, édité par les éditions Montparnasse et sobrement intitulé « Être psy », de la pratique de l'analyse que nous allons parler aujourd'hui en compagnie du psychanalyste Izzy Belair sur le divan des nouveaux chemins.
Mon fonds de commerce, c'est les secrets. On me paie pour les garder. Les secrets du désir, ce que les gens veulent réellement, ce qui leur fait le plus peur. Les secrets disent les difficultés de l'amour, de la sexualité, la douleur de la vie, la proximité de la mort, pourtant si éloignée. Pourquoi plaisir et châtiment sont-ils aussi étroitement liés? Comment nos corps parlent-ils? Pourquoi se rend-on malade? Pourquoi veut-on échouer? Pourquoi le plaisir est-il si dur à supporter? Je suis psychanalyste. Ou, pour le dire autrement, je suis un décrypteur d'esprit et de signes. Il arrive également qu'on m'appelle dépanneur, guérisseur, enquêteur, serrurier, fouille-merde, ou carrément charlatan, voire imposteur. Tel un mécanicien allongé sous une voiture, je m'occupe de tout ce qui se trouve sous le capot, sous l'histoire officielle. Fantasmes, souhaits, mensonges, rêves, cauchemars. Le monde qui se cache sous le monde, le vrai sous le faux. Je prends donc au sérieux les trucs les plus bizarres, les plus insaisissables. Je vais là où le langage n'a pas accès, là où il s'arrête, aux limites de l'indicible. Et tôt le matin, qui plus est. Bien avant tout cela, j'adorais déjà les ragots, qualité indispensable pour ce genre d'activité. Aujourd'hui, j'en ai pour mon compte. C'est un fleuve d'immondices qui se déverse en moi, jour après jour, année après année. Comme beaucoup de modernistes, Freud s'intéressait tout particulièrement au détritus. On pourrait dire qu'il est le premier artiste du reste, dans la mesure où il trouvait du sens à ce qui est habituellement laissé de côté. Sale boulot que de plonger au cœur de l'humain.
Bonjour Izzy Belair.
Bonjour.
Je suis un décrypteur d'esprits et de signes. Il m'arrive également qu'on m'appelle dépanneur, guérisseur, enquêteur, serrurier, fouille-merde ou carrément charlatan, voire imposteur. Est-ce qu'une partie de vous-même se retrouve dans la description qu'Anif Kouraïchi fait de l'exercice de votre profession?
Oui, décrypteur, je veux bien à la condition que le patient, enfin la personne qui vient de vous rendre visite, vous désigne comme décrypteur.
Oui, ce soit disponible en soi.
Voilà, mais pas seulement disponible, il vous met à cette place. Il n'y a pas de décrypteur en soi. La psychanalyse procède de la relation que vous établissez avec votre patient. S'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de psychanalyse. Donc, quand on dit « je suis un décrypteur », il faudrait rajouter « décrypteur de qui ?»
En somme, la faute, si j'ose dire, de ce texte serait de dire « bien avant tout cela, j'adorais déjà les ragots, qualité indispensable pour ce genre d'activité voilà. » qui renverrait en somme à une psychologie du psychanalyste par
voilà,
définition.
Et puis ferait une sorte de philosophie de sa position, mais qu'il ne rend pas compte de ce qu'il fait quand il est analyste. En parlant de cette façon, c'est paradoxal, parce qu'on pourrait croire en effet que les psychanalystes sont là pour recueillir ce que les secrets, la vérité sous le mensonge, tout ce qu'il dit dans ce texte. Et en fait, ça n'a de sens que dans la mesure où il est mis à une certaine place par son patient.
Mais l'argument selon lequel il faut une disposition, un caractère, un tempérament finalement propice à cela, est-il un argument recevable?
Oui, sans doute, parce que si on n'a pas l'intérêt à faire ce travail qui est quand même très singulier, je vois pas très bien ce qu'on ferait dans ce travail. C'est quand même quelque chose de tout à fait particulier.
Un travail singulier, vous dites singulier, peut-être faut-il entendre le mot de singulier à double titre. D'abord singulier parce qu'effectivement il ne ressemble à aucun autre, et ensuite parce que peut-être le singulier est-il son objet par définition, c'est-à-dire le moment où la connaissance ne peut pas réduire ou résumer ce qu'on entend, où on accède à quelque chose qui est de l'ordre, effectivement, comme il le dit ici, de l'indicible, d'une singularité, de quelque chose qui n'est pas réductible, de quelque chose qui ne rentre pas dans une théorie, dans une catégorie.
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, quand je dis que vous prenez une place pour le patient, ça dépend également de quelle place, puisque ça dépend du patient. Vous déplacez en fonction de ce qu'on appelle dans le jargon psychanalytique son fantasme, c'est-à-dire ce qui fait qu'en même temps il vous veut à cette place et en même temps il la conteste ou il la questionne, etc. Donc il faut, le premier travail de l'analyse, c'est d'essayer de comprendre dans la relation qu'il établit avec son patient quelle est la place qui lui est assignée, ce qui n'est pas tout à fait évident en tout cas au départ.
Mais dans cette relation se pose la question du rôle que joue le psychanalyste, ou plus exactement de la place qu'il prend, pas seulement de la place qu'on lui assigne, mais de la place qu'il prend. Quelle place fait-on quand on écoute et qu'on est payé pour le faire? Quand on écoute quelqu'un vous dire ce qu'il n'a dit à personne, ou ce qu'en tout cas il vous dit à vous et ce pourquoi il vous paye. En somme, quand vous êtes chargé d'entendre ce que vous êtes payé pour entendre, quelle place faire dans ces conditions à sa propre psychologie? Comment ne pas mêler ce qu'on entend de ce qu'on en pense, de ce qu'on croit en savoir, de ce qu'on croit en avoir lu dans d'autres livres, dans des essais sur la psychanalyse? Quelle place fait-on à la théorie d'une part et à son propre caractère d'autre part? Est-ce qu'il ne faut pas faire un travail, j'allais dire, d'abjuration et de la théorie et de sa propre psychologie pour laisser justement place nette, faire place libre à la parole d'un autre?
Oui, c'est beaucoup de questions à une fois. Ce que je dirais, c'est que l'analyse, comme tout être humain, il va avec son propre fantasme. C'est pour ça qu'on soutient que les psychanalystes doivent avoir d'abord fait une analyse. C'est-à-dire qu'il doit être en connaissance de ce qu'il soutient dans son métier d'analyste. C'est-à-dire ce qu'il propulse à faire ce métier, en tout cas, son souhait dans cette disposition très particulière qu'est d'être analyste. Mais il ne faut pas que ce souhait devienne un obstacle à ce qui peut se passer pour le patient. C'est toute l'affaire, c'est un premier point. Le rapport à la théorie est aussi essentiel parce que
un obstacle au sens où de façon générale d'ailleurs les préjugés qu'on peut avoir sur le monde s'interposent entre soi-même et le monde.
Tout à fait.
Guide une perception qui est faussement objective.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut en même temps, parce qu'on peut pas faire autrement que de situer l'autre à une certaine place. Comment voulez-vous faire autrement? Je prends des exemples simples. Si on veut aller à Marseille depuis Paris, on est bien obligé d'emprunter une route, bien qu'il y ait différentes manières d'y arriver. Cela étant dit, il faut savoir que c'est une route c'est le jour où on s'aperçoit que la route que l'on a empruntée est singulièrement celle qui se joue avec ce patient en particulier, que l'analyse commence. C'est pour ça qu'il y a un vrai travail à faire, qui est ce qu'on appelle l'auto-analyse, mais enfin qui n'est jamais qu'une référence que fait l'analyste à son propre travail, avec le travail qu'il a fait avec son analyste.
Justement, l'ambition de l'auto-analyse est-elle, quel est le résultat en l'occurrence, puisque c'est une condition indispensable à la pratique du métier de psychanalyste. Donc, en quoi est-ce une condition? Quel est l'effet attendu, escompté de l'auto-analyse? Parce que si une psychanalyse, vous le dites dans les DVD dont on va reparler, être psy, là, paru aux éditions Montparnasse, faire une psychanalyse ne débouche pas forcément sur un mieux-être. En revanche, l'auto-analyse a objectivement pour ambition de permettre l'analyse. À quel titre?
Qu'est-ce que vous voulez dire par à quel titre?
Eh bien, quel doit être l'effet d'une auto-analyse sur l'analyste?
C'est-à-dire que...
Qu'est-ce qu'elle doit permettre?
C'est-à-dire qu'on fonctionne, je reprends la métaphore de tout à l'heure, on a un certain mode de fonctionnement, quel qu'il soit, c'est-à-dire on a un certain type de rapport avec les autres, hein, en particulier dans l'ordre analytique, enfin dans l'ordre de ce qui nous occupe quand on reçoit des patients. La question qui est posée, c'est comment faire que cette façon que l'on a de fonctionner, les manières que l'on a d'être, les manières qu'on a de répondre,
sa propre histoire, en fond.
Voilà, sa propre histoire, ne vienne pas empêcher l'analysant de faire son travail. C'est ça tout le paradoxe de l'analyse, c'est qu'on peut pas ne pas avoir un certain style, parler d'une certaine manière, penser d'une certaine façon, investir les situations d'une certaine manière, d'une part, et par ailleurs, faire de telle sorte que ça ne soit pas un écueil pour le travail que doit faire l'analyste. C'est-à-dire que c'est pas évitable, Et il faut que ce qui n'est pas évitable dans leur, dans, sur le mode relationnel soit quelque chose qui soit heuristique et pas le contraire. C'est-à-dire que ça permette à l'analyse de s'opérer. Alors ça passe par des crises, ça passe par des remises en question qui ne sont pas simplement celles de l'analysant mais également celles de l'analyste qui doit constamment essayer de remettre sur le tapis ce qui l'a amené à penser telle chose. Ou... C'est dans ce questionnement systématique lorsque la chose n'est jamais acquise qu'il laisse la place entière à son analysant.
Au fond, c'est en s'interrogeant sur lui-même que l'analyste laisse à l'analysant toute la place qui est nécessaire, parce que derrière le silence de l'analyste, le silence célèbre de l'analyste, le silence parfois éloquent de l'analyste, selon ce que l'analysant choisit d'entendre, lui aussi d'ailleurs, derrière ce silence-là, il y a un questionnement qui doit être en somme la condition de possibilité d'une parole libre.
Oui, mais le silence, c'est pas une abstention, c'est un silence actif quand il y a silence, hein. C'est-à-dire qu'on choisit d'être silencieux, c'est pas une obligation en tant que telle, au même titre que lorsque l'on intervient, on choisit d'intervenir. Il n'y a pas une dialectique au sens où le silence viendrait s'opposer à la parole, c'est-à-dire que le silence et la parole, c'est du même, d'une certaine façon. C'est-à-dire si on ne dit rien, c'est que quelque chose est entendu, ou même si c'est une position qui peut être un a priori, pour en tout cas chez certains analystes, d'autres travaillent différemment, mais enfin peu importe. Là, il faudrait rentrer vraiment dans des détails techniques. Mais le silence, ça doit être actif, c'est-à-dire c'est une position qui est un choix de l'analyste en tant qu'il entend quelque chose. Si c'est simplement se taire, puis penser à autre chose, évidemment que le travail n'est plus accompli.
Alors, en effet, mais dans ces conditions, est-ce qu'on peut parler alors d'un dialogue? Première question. Et deuxièmement, est-ce qu'on peut parler d'un dialogue finalement entre une confession, mais je mets le mot ici entre guillemets, et le silence qui la recueille? Et deuxièmement, est-ce qu'une intervention ne fausse pas un discours? Comment intervenir sans orienter finalement le discours, sans lui donner une direction, sans comment intervenir sans intervenir?
Mais c'est ce que je disais à propos de Marseille. On peut pas aller à Marseille sans prendre une route singulière. On est obligé de prendre une route. Et si on prend A, c'est la route A, ça ne sera pas la route B. Donc c'est évident qu'on oriente. La question, c'est qu'il ne faut pas être dupe de cette orientation, ou en tout cas, il s'agit de l'interroger comme tel. Maintenant, quand vous posez la question du dialogue, c'est une vraie question. C'est-à-dire, longtemps, on a parlé d'intersubjectivité, par exemple. Hein, on a repris les expériences des phénoménologistes, Merleau-Ponty et autres. De croire qu'il y avait un dialogue au sens où il y aurait véritablement un face-à-face, même si le patient est sur le divan et l'analyste dans le fauteuil, qui ferait que la réponse viendrait répondre à la question du patient. Or, on s'est aperçu que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que la confession, le dialogue, enfin, toutes ces notions que vous venez de mettre en avant, est un piège, dans la mesure où si on répond à la question, comme on dit quelquefois à la demande, eh bien on ferme
quelque
chose.
Ou à la question au sens inquisitorial du terme, presque.
Voilà.
À ce moment-là.
Enfin bon, si vous voulez, mais ça serait sans l'aspect torture, si je puis dire.
Ou alors une torture que l'analysant s'infligerait à lui-même.
Voilà.
Motif
exactement.
Que c'est une démarche
alors,
difficile.
C'est très intéressant que vous disiez cela, parce que il y a quelque chose d'autre qui vient intervenir, c'est les intentions ou l'intention inconsciente du patient, qui, s'il vous pose cette question, c'est pas par hasard. Donc, la question n'est pas... il faut en même temps entendre la question et en même temps se demander qu'est-ce qui fait qu'il a posé cette question plutôt qu'une autre. C'est-à-dire que l'écoute de l'analyste se dédouble, on pourrait dire d'une certaine façon. S'il répond à la question de manière massive, il clôt le débat. C'est-à-dire qu'il instaure un dialogue. Dans certaines positions thérapeutiques, on peut être amené quelquefois à faire cela, c'est-à-dire faire du colmatage, comme on dit quelquefois en analyse. Mais l'analyse en tant que telle insiste, c'est renvoyer une autre question, c'est-à-dire quelle est la question sous-jacente à la question qui a été posée. Donc la réponse ne peut pas être simplement une réponse à la question. Donc d'une certaine façon, il y a toujours quelque part un dialogue de sourds entre deux analyses, entre l'analyste et son analysant. Ça ne peut pas être un dialogue au sens de la maïeutique, qu'on qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire de ce qui a instauré Socrate lorsqu'il discutait, ou il avait véritablement un dialogue avec son élève.
Mais l'ambition de Socrate, l'ambition maïoticienne de Socrate, hein, dont il faut rappeler que, psychanalytiquement d'ailleurs, c'est certainement très intéressant, Socrate dit « je fais le même métier que ma mère », Phénarète, laquelle accouchait les corps, par conséquent elle accouchait les femmes. Or moi, dit Socrate, j'accouche les esprits, par conséquent j'accouche les hommes. Il y aurait là-dessus encore certainement beaucoup à dire. Néanmoins, la démarche de Socrate, la pratique de la maïeutique, qui n'est pas une façon, alors est présentée de façon folklorique comme une façon de ressusciter au fond des idées enfouies, quand l'âme s'est enfouie dans un corps chez Platon, les idées dont elle dispose se sont enfouies avec elle, et il s'agirait pour Socrate d'exhumer, de ressusciter ces idées-là. En pratique, il s'agit de considérer que les hommes savent tout, mais qu'en revanche, ils ne veulent pas savoir ce qu'ils savent, ou ils ne savent pas ce qu'ils savent. Alors, il n'y a peut-être pas chez Socrate l'idée qu'ils ne veulent pas savoir ce qu'ils savent, mais que tout simplement ils ignorent ce qu'ils savent, et que son métier à lui, c'est de leur montrer ce qu'ils savent, sans savoir qu'ils le savent. Mais quelle différence y a-t-il entre la maïeutique, celui qui vous fait accoucher de vous-même, et une psychanalyse où un analysant parvient à la formulation de ce qui l'agite, de ce qui le détermine, de ce qu'il agit avant cela?
C'est une question fondamentale, parce que il y a une notion qui n'est pas présente, si on doit se référer à Socrate, c'est la notion de conflit intrapsychique. C'est-à-dire que l'inconscient n'est pas simplement, comme son nom l'indique, qui est d'ailleurs un mot qui est un très bon mot, parce qu'en allemand, unbewusst, ça veut dire en même temps inconscient, mais en même temps quelque chose qui est de l'ordre de l'insu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est l'insu au sens où il s'agit de ne pas vouloir le savoir. Il y a un désir de ne pas savoir. Et c'est toute l'affaire.
Ce qu'on désire ne pas savoir prouve qu'on le sait. Enfin, je veux dire, le fait qu'on désire ne pas savoir prouve qu'on le sait.
C'est-à-dire que c'est la grande invention freudienne, c'est non seulement d'avoir découvert l'inconscient, mais il en était déjà question dans tout le siècle, comme vous le savez. C'est pas le premier à avoir eu l'idée qu'il y avait une part d'inconscient dans un être humain. La question, c'est qu'il en a fait une instance conflictuelle avec le conscient du sujet. Or, c'est toute l'affaire. C'est-à-dire que c'est pour ça que la confession ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire une confession pour être quitte de quelque chose. Quand, dans le texte que vous avez lu au début, il était question, ou nous avons entendu au début plus exactement, il était question de la vérité sous le mensonge, le problème c'est que c'est ni une vérité ni un mensonge, c'est une façon de le raconter. Et il y a une façon qu'on veut surtout pas de le raconter, qui peut être liée à une perception qu'on a eue enfant, par exemple, qui était vécue d'une façon extraordinairement violente, alors que c'est devenu tout à fait peanuts quand il s'agit d'un adulte, mais qui continue de vivre cette histoire d'Auriol, qu'il a vécu enfant, par exemple, comme une chose tout à fait traumatique et extraordinairement importante. Il va passer sa vie, il essaie d'éviter de pouvoir se le raconter, parce que d'un certain point de vue, il passe son temps à se le raconter. C'est ce qu'on appelle l'inconscient.
On va faire trois petits points qui correspondent à des lieux communs ou à des évidences sur la psychanalyse, mais qui, comme toute évidence, méritent qu'on les examine. D'abord, quel est le rôle de l'argent? Est-ce que l'argent a pour effet de permettre, que permet le fait de payer grassement celui qui vous écoute en silence? Deuxièmement, que vaut l'histoire que m'a raconté un jour un ami qui, en pleine analyse, fond en larmes et soudain voit la main de son analyste s'approcher de lui et lui caresser la joue, et se trouve à partir de là dans l'impossibilité de poursuivre son analyse avec son analyste. Et troisièmement, en quoi est-il absurde en matière de psychanalyse de prétendre rétablir une certaine forme de vérité? En quoi le mot même de vérité devrait-il, c'est une hypothèse, être, j'allais dire, laissé de côté au profit de, je sais pas moi, du terme de sincérité peut-être, ou d'authenticité, ou alors de courage, tout simplement.
Oui, trois questions donc.
Argent, intervention, courage.
Oui, alors l'argent, c'est... on peut pas ne pas avoir une médiation entre l'analysant et son analyse. L'argent, c'est par définition la médiation par excellence du social, du corps social. Ça a un effet libérateur, par exemple. C'est-à-dire que quand vous payez quelque chose, vous êtes quitte, d'une certaine façon, en tout cas socialement. Le fait d'être quitte, on sait très bien que c'est un peu être un leurre, puisque le fait de pouvoir être quitte si facilement de quelque chose, comme quand vous achetez un sac de pommes de terre, n'est pas du tout de mémoire lorsqu'il s'agit de son analyse, puisque d'être quitte de cette personne, vous relance dans quelque chose qui fait que le fait d'avoir été quitte de cette personne fait que vous êtes attaché d'une autre manière. Donc il y a toute une série de conséquences en aval du fait de payer qu'on retrouve dans l'ordre analytique. Mais enfin, il y a quand même cette dimension qui fait que l'échange est clair, il y a une sorte de contrat, puisque d'une certaine façon, chaque fois que vous faites votre séance, vous la payez, et lorsque vous partez, d'une certaine manière, vous êtes quitte de ce que vous avez fait, c'est-à-dire que vous pouvez décider que ça suffit comme ça. Et une fois payé, l'analyste ne va pas vous envoyer les flics.
C'est un excellent lapsus.
Pour vous demander de revenir la séance suivante, n'est-ce pas ? Même s'il dit, je vous attends toujours. Mais si vous décidez que vous ne pouvez y aller, vous n'y allez plus. Ce n'est plus. Vous êtes quitte d'une certaine manière, à la différence de ce qui se passe dans une histoire d'amour, par exemple.
Non, mais en revanche, ça ressemble d'assez près à ce qui se passe avec une prostituée.
Oui, d'une certaine manière. Je ne suis pas contre cette idée. Sauf que une prostituée, ça impliquerait qu'il faut que vous la fréquentiez, il faut que ce soit toujours la même, et qu'une prostituée, vous savez ce que vous allez faire à l'avance. C'est-à-dire, vous pouvez demander à cette personne
telle ou telle
vous
prestation.
Vous me faites A voilà. plus B plus C, et puis quand j'arrive à C, j'ai eu ce que je voulais, au revoir, je vous paye, je m'en vais. Évidemment, ça ne se pose pas du tout dans les mêmes termes en analyse. Il n'y a pas de... Si vous tombez dans ce fantasme qui est de savoir à l'avance ce qui va se dire dans la séance, c'est foutu. C'est justement ce dont on parlait tout à l'heure. La deuxième question,
l'intervention, le geste de l'analyste qui, consolant celui qui pleure, par exemple, tend la main et rompt une sorte de frontière symbolique qui peut-être à ce moment-là compromet la poursuite du travail.
Alors, le mot symbolique est un mot lourd de conséquences. Mais disons en tout cas que ça a été un des enjeux extrêmement importants pour Freud lui-même, puisque ça a été Ferenczi, par exemple, qui était un des élèves les plus choyés de Freud, a été un des promoteurs de ce qu'on appelait des techniques actives, c'est-à-dire le fait que l'analysant puisse à un moment donné passer non seulement par le langage, puisqu'on appelle l'analyse au fond comme on dit en anglais, talking cure, c'est-à-dire quelque chose qui se passe essentiellement par le langage, à partir de certaines règles qui sont celles que l'on a établies de façon un peu arbitraire entre l'analysant et son analyste, mais qu'il puisse y avoir contact physique. Le problème, c'est d'ailleurs comme ça que l'analyse a commencé, hein, Freud à l'origine touchait ses patients. C'est le jour où il a renoncé à toucher à ses patients que la psychanalyse est devenue vraiment à proprement ce qu'elle est. Donc c'est une véritable question dans la mesure où il peut y avoir des effets de ce qu'on appelle de séduction qui peuvent être tellement massifs que ça court-circuite ce qui se passe de manière tout à fait insignifiante quand il s'agit de la main. Mais enfin, ça peut être des choses beaucoup plus radicales encore entre un analysant et son patient. L'analyste et son patient, et ça court-circuite ce qui se passe ici et maintenant avec ce qui s'est passé et ce qui a été vécu dans l'enfance et tout ce que ça implique. Donc quelque chose qui rend alors brusquement, quand vous parlez de l'inhibition de son patient, c'est-à-dire c'est probablement quelqu'un qui s'est trouvé brusquement confronté à une décharge massive ou à un fantasme massif qui de séduction, qui peut être aussi le contraire d'ailleurs, ça peut dire d'un désir très violent de rejet et que c'était trop massif pour pouvoir le déplier et donc continuer son analyse.
Et dernier point, dire la vérité.
Alors la vérité, c'est un problème très particulier parce qu'on peut pas ne pas.
Est-ce que quelqu'un qui ment, pour poser la question autrement, est-ce que quelqu'un qui raconte quelque chose qui ne lui est pas arrivé, qui sur le divan choisit de raconter une histoire ou d'enjoliver une histoire, d'embellir une histoire ou bien tout simplement d'inventer une histoire qui ne lui est pas arrivée, est-ce que celui-là, dans ce qu'il dit, ne dit pas malgré tout quelque chose ? Est-ce qu'en somme, vous avez dit tout à l'heure, l'intérêt n'est pas tellement la question qu'on se pose, mais la question qui est à l'œuvre dans la question qu'on pose. Finalement, est-ce que celui qui choisit de raconter une histoire qui ne lui est pas arrivée ne dit pas là, également, ne laisse pas passer quelque chose qui, en soi, est l'objet, justement, de l'analyse, plus encore que la vérité d'un récit?
Vous avez raison, c'est le statut de la fiction. C'est-à-dire tout ce que l'analyse a de fictionnel. C'est-à-dire, pour prendre un exemple, quand Flaubert disait Madame Bovary, c'est moi, si vous lui avez dit, enlevez votre pantalon, on va vérifier, évidemment, si on lui dit ensuite que vous avez menti, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. C'est déjà quelque chose qui dit la vérité. C'est ça qui est le paradoxe. Alors, on peut le dire déjà en littérature, dans tout ce qui est créatif et tout ce qui est fictionnel, mais en analyse a fortiori. C'est-à-dire qu'il y a cette idée tout à fait particulière, qui est qu'il y a la vérité de ce qu'on dit, c'est-à-dire, je suis allé effectivement hier voir une telle et j'ai vu telle personne et je l'ai rencontrée, etc. Et puis il y a ce qui est la vérité du sujet, c'est-à-dire la vérité subjective, qui est celle que l'on recherche, et qui est qu'est-ce qui a fait que c'est ça qu'on met en avant et pas autre chose, pourquoi est-ce que c'est ça dont on a rêvé, etc. C'est-à-dire quelque chose qui nous intéresse véritablement, et dès que l'on saisit ou qu'on l'on questionne cette autre dimension de la vérité, en même temps qu'on l'a prend, elle vous quitte aussitôt. C'est-à-dire, c'est toujours, on refait de la fiction derrière, obligatoirement. Donc, c'est une tension constante entre la question de la vérité et la réponse fictionnelle qu'on y donne, en tout cas pour, dans l'ordre de l'analyse.
On va entendre tout de suite un texte de Jean-Bertrand Pontalis, mieux connu sous le nom de J.B. Pontalis, un texte dans lequel il revient sur la, justement, la psychologie de l'analyste et une forme de, d'altération au sens d'un devenir autre nécessaire, justement, à l'exercice de son métier. Écoutez.
Un psychanalyste n'a personne pour l'assister. Il ne peut pas non plus s'en remettre à des automatismes. Son outil de travail, c'est lui-même. Et cet outil-là est sujet à des défaillances. Je puis être analyste aujourd'hui, cesser de l'être demain. L'être au cours de cette séance, pas au cours de la suivante. À quoi tiennent ces intermittences? Je ne parle pas ici de ce qui est, du moins le croit-on, induit par le patient. Ennui, découragement, exaspération. Je parle de ce qui, à coup sûr, vient de moi. De ce qui fait que je m'absente de la séance ou, à l'inverse, adhère sans pouvoir prendre la moindre distance à ce que dit mon patient dans la crainte d'être occupé par autre chose. Je me force, par conscience professionnelle, à être là, pas ailleurs. Absent, présent, je ne suis pas là où je devrais être. Où devrais-je être? Dans quel lieu me tenir? Dans quel espace me mouvoir? Pour me tenir dans ce lieu, pour me mouvoir dans cet espace, il faut que je m'éloigne de la réalité extérieure, comme je dois me placer en léger retrait du propos manifeste du patient, que je sois de l'autre côté, et dans le même temps ici. Je n'y parviens pas toujours, car cela exige de ma part tout le contraire d'un effort, d'une vigilance attentive. Qu'est-ce alors que mon outil de travail? J'ai eu tort d'écrire à l'instant moi-même. Non, ce n'est pas moi-même. C'est moi autre, ce moi qui cesse d'être moi, cet autre qui n'est pas identifié. L'analyste ou l'artisan sans outils, le travailleur sans compétences, l'homme sans qualité.
Madame rêve d'atomise et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve, Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Au ciel.
On est loin. Izzy Belair, il y a quand même un paradoxe dans cette affaire, c'est que n'importe quel analyste dira que la psychanalyse est une pratique, et pourtant peu de pratiques sont dotées d'un tel arsenal théorique, d'autant de livres, d'essais, de tentatives de comprendre, de formaliser, à commencer par Freud lui-même, qui dès l'interprétation des rêves entreprend témoigne de l'ambition presque folle de mettre une grille d'intelligibilité quasiment infaillible, dont il soupçonne d'ailleurs les failles, mais qu'il voudrait être infaillible. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, alors là pour le coup frontale, entre l'ambition théorique et les textes, souvent passionnants d'ailleurs, rédigés par les psychanalystes, le fait même qu'en somme la pratique se résume à une expérience, un dialogue, même si ce mot est sujet à caution, mais en tout état de cause, une aptitude au fond à l'écoute. À quoi sert ce qu'on sait en psychanalyse. Voilà. À quoi sert ce qu'on a découvert? À quoi sert la théorie?
C'est-à-dire que la théorie ne fonctionne que quand elle fait retour. C'est-à-dire qu'il faut véritablement avoir tout oublié. C'est comme la culture. Pourquoi on fonctionne comme analyste? Si on vient avec des idées théoriques préconçues, on est déjà en train d'entraîner son patient dans une direction qui est peut-être celle qui vous a satisfait. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire, vous avez un certain type de rapport avec la théorie.
Ce que se pose derrière cette question d'un enjeu de pouvoir, en somme.
Le pouvoir c'est, vous savez bien que quand on le chasse par la porte, la porte, le pouvoir revient par la fenêtre. On est toujours dans des enjeux de pouvoir. Une histoire d'amour, c'est aussi un enjeu de pouvoir. Et vous savez bien que l'analyse, on dit souvent avec les histoires de transfert que c'est une forme d'histoire d'amour. Sinon, l'amour lui-même, d'ailleurs, d'une certaine manière. Donc, le pouvoir, on ne peut pas ne pas, c'est en questionnant la relation de pouvoir que l'on, c'est une des façons de faire l'analyse, en tout cas une des façons les plus importantes. Mais, il y a quelque chose d'arbitraire, c'est vrai. Ça procède de choses tout à fait simples. C'est-à-dire que l'on peut très bien décider, après tout, pourquoi pas, quand on joue aux échecs, de rajouter une case, ou de décider que le cheval, au lieu de faire telle marche, fait telle autre. Ça change la règle. Ça veut pas dire qu'on peut plus jouer. Mais ça devient autre chose. Ça devient un autre jeu. Mais si on veut jouer et rencontrer quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré pour faire une partie d'échecs, ou les rencontrer au Luxembourg, il va bien falloir que on parte dans l'idée qu'il y ait une certaine règle qui est celle-là. Et c'est ça qui permet au jeu de fonctionner.
Donc vous diriez que la théorie psychanalytique, c'est comme les règles du jeu d'échecs.
Non,
ce sont les règles
pas de
du
la
jeu.
Théorie. Là, je parle de la pratique, c'est-à-dire de ce que ça a d'arbitraire aussi que de décider que ce sera trois quarts d'heure, etc. Alors, par exemple, l'histoire du divan, qui est un des dispositifs que Freud a inventé. Il l'a inventé au début. Il y a beaucoup d'hypothèses. Par exemple, certaines personnes ont pu dire que c'est parce qu'il en avait assez d'être sous le regard de ses patients, que c'est une chose quelquefois un peu pénible, et que ça lui permettait d'être plus tranquillement assis, et sans être sous cette espèce de regard qui peut être très scrutateur.
Oui, c'est comme quand Éluard a écrit la Terre est bleue comme une orange, parce qu'il avait vu un cajot d'orange pourri, évidemment, ce qui...
C'est plus que ça, tout de même, dans la mesure où l'analysant allongé est plus entraîné, il se questionne plus sur ce qu'est à proprement parler la relation analytique, c'est-à-dire à qui s'adresse-t-il quand il parle en analyse. Alors il dit, je m'adresse à mon analyste, mais qui est son analyste? Et quelle est cette personne avec laquelle il raconte des choses tout à fait secrètes, profondes, vraies, qu'il n'a jamais dit à personne, en fait, toutes ces choses dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est vrai que le dispositif permet en même temps d'approfondir cet aspect de concentration du sujet sur ce qui lui vient à l'esprit, l'association libre, et en même temps de questionner de façon plus radicale encore quelle est la personne à qui il s'adresse vraiment. Quand vous parlez à quelqu'un en face, vous avez vraiment l'impression que vous parlez à cette personne, ce qui n'est pas du tout évident. Parce que le rapport réel est toujours grévé d'une sorte de filtre. On pourrait dire qu'on porte tous des lunettes de soleil, pour prendre une métaphore, et que si vous voyez les choses avec une certaine couleur, vous pensez qu'elles sont de cette couleur-là, alors que le fait que les couleurs vous aient donné par quelque chose, là je prends cette idée de lunettes qui est peut-être un peu idiote, mais enfin bon, c'est pour donner une certaine idée, c'est-à-dire que votre inconscient oriente les choses d'une certaine manière, donne une couleur à certaines choses qui font que vous n'avez pas d'objectivité parce que c'est une position impossible.
C'est une position impossible, et en même temps, il y a eu, j'en reviens à cette question du pouvoir, il y a dans l'histoire de la psychanalyse des figures cardinales, des figures majeures, des figures essentielles, auxquelles un certain nombre de praticiens de l'analyse se sont référés, et dont on peut se demander si la référence, ou quasi la vénération qu'ils ont portée à ces figures cardinales n'a pas, en un sens, j'allais dire, fonctionné comme un préjugé supplémentaire, finalement, comme une opacifiant davantage la relation là où elle prétendait l'éclairer, et dans un sens pour le coup véridique.
Mais oui, c'est absolument ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas être, par exemple, freudien, c'est-à-dire se référer à l'œuvre de Freud, et en même temps on passe son temps à questionner ce qui a amené Freud à penser comme si dans ses courriers avec Fliess ou d'autres, comment est-ce qu'il a été amené à inventer la psychanalyse, comme si on voulait arriver au fin fond de ce qui, c'est-à-dire au fond d'une certaine manière, réinventer soi-même la psychanalyse, se débarrasser de Freud. Mais ça fait partie de l'analyse, C'est-à-dire que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est pas toujours dans une histoire d'amour avec des petites ailes et tout se passe bien et sur un mode angélique. C'est, il y a quelque chose qui, dans les enjeux de pouvoir qu'implique le travail analytique, il y a une espèce de hargne de base, une agressivité fondamentale qui est propre à la pensée, hein, et on peut pas l'éviter. Alors ce questionnement doit avoir lieu. Et
l'éviter, vous l'écrivez en deux mots ici. Hein. L'éviter, vous l'écrivez en deux mots.
Oui, tout à fait.
Alors parmi ces figures éminemment charismatiques, il n'y a pas que Freud, évidemment. Il y a peut-être celui qui était son meilleur interprète en France et qui a tiré la psychanalyse du côté du langage, si tant est qu'elle n'y était pas déjà. C'est Lacan. Et je voudrais qu'on entende ici un extrait d'une conférence fameuse dont on a gardé le film et qu'on trouve d'ailleurs disponible aujourd'hui. Une conférence à Louvain que Lacan a donnée en 72. Alors on ne va pas aller dans le texte même de la conférence, puisqu'il ne s'agit pas ici de discuter de la lettre de ce que Lacan propose, mais juste en amont de cette conférence, avant que Lacan ne prenne la parole pour dire ce qu'il avait à dire, voici un tout petit épisode qui est peut-être deux fois symptomatique du rapport que Lacan entretenait avec ceux qu'il écoute ou qu'il écoutait ou qu'il aimait, où l'on voit la force avec laquelle il s'impose, et également, j'allais dire, de la même façon qu'il n'y a pas de tyran sans esclave, finalement, la disponibilité, la j'allais dire presque la crédulité de ceux qu'il écoute ou qu'il attend d'écouter.
Je serais reconnaissant aux personnes qui sont à la périphérie de me signaler de la façon qui leur conviendra, si on m'entend bien. Comme je n'aime pas énormément cette sorte d'ustensile, je l'ai mis sous ma cravate, mais si par hasard ça fait un obstacle, ayez la gentillesse de me le dire. On entend ? On n'entend pas. Comme ça, entend-on ? Ça va pas ? Dites, ça va ? Alors, la cravate, donc, était un obstacle.
C'est émouvant, Isibelle, d'entendre la voix de Jacques Lacan.
Oui, c'est très émouvant.
Malgré
c'est
tout.
C'est très émouvant, parce que j'ai personnellement fait un contrôle avec Lacan, je l'ai fréquenté de près, et ça, évidemment, ça fait beaucoup de réminiscences.
Mais alors, au sein de ces réminiscences, il y a donc cet épisode de la cravate. Alors, il est, vous décrire les choses dans leur contexte, hein, il est là, il arrive, il est attendu quasiment comme le Messie, il a cette cravate qui est posée sur son micro, et donc on n'entend pas quand la cravate est posée sur le micro. Donc, il faut inverser les choses, hein, comme la barbe du capitaine Haddock, dont on ne sait jamais s'il doit la mettre au-dessous ou au-dessus de la couverture. Ben voilà, la cravate et le micro, il faut mettre le micro au-dessus de la cravate parce que, dit-il, la cravate est un obstacle. Et voilà un homme qui provoque l'hilarité en prononçant une phrase comme ça.
Ben, c'est là où il est quand même extraordinairement analyste. C'est-à-dire qu'en fait, il joue de ce qu'il appelle l'ustensile sous la cravate. Si je dis cette chose-là, il y a tout de suite des évocations qui se font. On ne peut pas l'éviter. Or, il est... C'est ça le génie de Lacan, c'est la capacité qu'il a, c'est-à-dire c'est d'abord et avant tout un homme de la parole, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est capable, en même temps qui prend des considérations théoriques, préconisé au départ et qui a été le propre de Lacan, c'est-à-dire que ça a été le véritable premier analyste français à lire Freud dans son texte en allemand. C'était un germaniste distingué, il était extrêmement fort, hein, bon, et puis d'essayer de voir en quoi on pouvait approfondir les différentes interprétations qui ont pu être faites du texte freudien. Et c'est ça, d'abord, Lacan.
La véritable novation de Lacan était de refuser de dépasser Freud, en somme. Il voulait le refonder.
Non, pas du tout. Il a voulu de revenir à Freud. C'est-à-dire considérant, à juste titre, que la psychanalyse en France était psychologisée et francisée, mais pas sur, dans le bon sens. Ça a été d'autres influences, par exemple, d'autres psychologues distingués qui étaient tout à fait importants, genre Janet et autres, mais qui ont eu une influence décisive dans la façon qu'avait la psychanalyse de tourner. Donc il a préconisé le retour au texte freudien, qui est proprement là où s'origine l'invention de la psychanalyse. Donc sur ce plan, il a été tout à fait essentiel. Ensuite, il a véritablement voulu tirer ce qu'il considère, lui, comme étant l'essentiel de l'enseignement de Freud, et faisant ce travail, il a lacanisé d'une certaine manière Freud. Mais pourquoi pas ? Hein, c'est comme ça que ça fonctionne.
Et Freud lui-même avait d'une certaine façon fait la même chose quand il a voulu préserver ce qu'il avait découvert des interprétations qui lui semblaient hétérodoxes au début
Freud
du siècle.
Freud a passé son temps à excommunier des gens, à être pas d'accord avec certaines autres, etc., au nom d'une orthodoxie qui était celle en fait qu'il décrétait. Mais il faut jamais oublier que Freud, c'était un travail constant et qu'il a passé sa vie à re-questionner lui-même ce qu'il avait mis en avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un corpus freudien qui serait une fois pour toutes celui-là. Et il faut toujours donner la date du moment où il a écrit telle chose, d'une part, et par ailleurs, même dans le texte lui-même, à une date donnée, il y a déjà plusieurs manières de pouvoir entendre ce dont il est question. Donc ce mode de fonctionnement est essentiel. C'est pour ça d'ailleurs, c'est une des façons de comprendre pourquoi Lacan a tellement insisté sur le rôle qu'a effectivement pris le langage. Mais quand on parle de langage, il s'agit de Lacan, et c'est pas simplement le langage. Quand il dit par exemple que l'inconscient est structuré comme un langage,
c'est en général ce qu'on sait de Lacan quand on ne l'a pas lu. Hein.
Ben voilà, mais on comprend même pas ce qu'il veut dire. C'est-à-dire on dit l'inconscient est un langage au sens où je suis en train d'en utiliser un. Alors c'est pas faux, mais c'est complètement faux en même temps. C'est pas de ça dont il s'agit. Il dit que c'est la structure qui est comme le langage. Alors ce qui est déjà beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose soit structuré comme le langage? Ben c'est tout simplement qu'il n'y a pas d'autre moyen d'aborder l'inconscient qu'à travers le langage. Le rêve est du langage, les lapsus sont des langages, etc.
Est-ce que de cette façon il veut introduire, si j'ose dire, la raison dans les nappes obscures de l'inconscient, ou au contraire sensualiser la conscience finalement? Qu'est-ce qui déborde? Est-ce la raison qui décide, la raison langagière, les structures finalement qui l'exporte jusqu'au domaine plus opaque et confus de l'inconscient, ou est-ce au contraire dans le langage quotidien l'inconscient qui se fait jour et qui se manifeste?
C'est les deux. Je vois pas. C'est-à-dire, on peut pas.
Est-ce qu'il a rationalisé l'inconscient ou est-ce qu'il a sensualisé la conscience, si vous voulez?
Oui. Il y a une rationalité du discours analytique, ça, sans aucun doute. D'ailleurs, il a poussé cette idée de rationalisation du discours jusqu'à vouloir mettre en place une mathématique du discours. C'est ce qu'il appelait le discours analytique. Il a même pensé pouvoir en faire des équations, c'est-à-dire expliquer en comment fonctionnait l'inconscient dans son rapport avec le reste, c'est-à-dire le conscient et autres.
C'est un échec.
Oui, mais c'est un échec et un demi-échec, parce que c'est bien dans cette tension constante, dans cette quête constante de cet objet, dans ce Graal, qu'il a inventé et avancé. On pourrait dire que d'un certain point de vue, Freud, ça a été la même chose. Il a dit lui-même qu'il y avait des choses qu'il n'avait pas encore. Il a terminé sur des concepts qu'il n'a pas eu le temps de développer, le clivage du moi ou des choses comme ça. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails théoriques, mais lui-même, chaque fois, il essaie de trouver de nouvelles façons d'expliquer la raison pour laquelle, dans beaucoup de cas, l'analyse ne fonctionnait pas ou pas comme on pouvait l'espérer. Donc c'est une tension constante entre un but recherché qui recule au fur et à mesure qu'on avance, et c'est dans cette mesure que l'analyse se fait. Et tous ces bons auteurs et tous ces théoriciens sont des gens qui ont pu, grâce à leur génie personnel, faire avancer ce qu'on appelle d'autre part la cause freudienne, c'est-à-dire une certaine compréhension et acceptation de l'humanité.
Parler de compréhension, est-ce que le mot de compréhension est plus adéquat ici que le mot d'explication, au sens où l'explication mettrait l'objet à distance et prétendrait par là même en donner une version objective, alors que la compréhension relèverait d'un ordre plus intuitif, c'est-à-dire effectivement indicible, c'est-à-dire aussi peut-être poétique?
Oui, mais ça on peut pas séparer les deux. Je pense que c'est ce qui...
Bon, pourtant, les deux ne font pas la même chose. Ça non, n'est pas la même chose. Expliquer et comprendre, on peut expliquer un comportement et ne pas le comprendre. On peut comprendre quelqu'un sans pour autant s'expliquer son attitude.
Tout à fait. Absolument. Mais c'est déjà, le dire de cette façon montre qu'il y a plusieurs logiques qui fonctionnent dans le même mouvement. Et l'autre point qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est ce que, en psychanalyse, on appelle le sexuel. C'est-à-dire que c'est investi d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a certaines séquences de fonctionnement de pensée qui fonctionne de cette façon parce que depuis l'orée de la vie, depuis l'enfance, de certaines expériences princeps, c'est comme ça que ça s'est instauré. C'est ce qui a permis à un temps, en tout cas, de parler de structure, puisque ça se répète de façon systématique. Et on peut finir par penser que ça a structuré la pensée ou la façon d'être du sujet par rapport au monde de cette manière. Mais il ne faut jamais perdre de vue que c'est en même temps une histoire. C'est-à-dire que ce qui s'est structuré d'une certaine manière peut se structurer d'une autre. C'est-à-dire qu'il faut toujours relancer la question de la liberté, c'est-à-dire la capacité du sujet lorsqu'il comprend et lorsqu'il s'explique, et d'ailleurs son explication peut être très différente de celle que donnerait par exemple l'analyste, et bien de faire bouger son jeu, qui fait que, je prends souvent cette métaphore par exemple, si on passe sa vie dans un jeu de cartes par exemple, à dire si j'avais reçu un as, j'aurais gagné alors que je n'ai jamais reçu qu'un roi, et c'est pour ça que j'ai perdu, si parce que j'ai eu un père qui était comme ci plutôt que comme ça, une mère comme ci, etc., eh bien, la chose ne bouge plus. La question, c'est comment faire pour qu'avec un roi, plutôt qu'un as, on gagne sa partie.
Ou avec une paire.
Perdre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là... Pardon ?
Ou avec une paire.
Ou avec une paire. Plus voilà, comme au poker, on gagne avec une paire.
Une paire ou un maire.
Voilà.
Oui. Ou une belle paire. ou un beau-père, on pourrait aller plus loin encore. On oppose souvent, Isibeller, on s'approche du terme de l'émission, hein, mais encore deux questions peut-être. J'ai dit au début de cette émission que la psychanalyse était fille de médecine et de philosophie, et peut-être pour prolonger là-dessus, avant de clore cette émission, deux questions. D'abord, on oppose en général terme à terme, quasiment Freud et Descartes, en expliquant que Freud a introduit l'inconscient là où Descartes allait d'idées claires et distinctes en idées claires et distinctes. Mais est-ce qu'au fond, Freud n'a pas prolongé l'ambition cartésienne, l'aporie cartésienne d'une interaction de l'âme et du corps ? Descartes dit le corps et l'âme doivent communiquer pour agir l'un sur l'autre. Or, ils sont hétérogènes en nature, laissant à sa postérité le soin de combler cet écart. Est-ce que Freud ne s'inscrit pas finalement dans cette ambition ? Est-ce que Freud n'est pas le dernier des cartésiens ? Ça, c'est une première question. Et deuxièmement, est-ce que la psychanalyse et la philosophie n'ont pas ceci en commun qu'elles n'aident pas forcément à vivre ?
Je sais pas, vous êtes mieux placé que moi pour répondre pour ce qui est de la philosophie, mais l'analyse, je crois que je répondrai pas ça. Hein. Je pense que ça aide à vivre quand même. Hein. Sinon, je ne serais pas aussi thérapeute et médecin. Hein. Je pense que véritablement, de démoignage des patients eux-mêmes. Et beaucoup de patients disent ça n'est plus la même chose, je me sens quand même différent, ou je suis plus libre d'agir, etc. Donc c'est pas si ça ne répond pas comme ça. Mais pour revenir à Descartes, je pense que Descartes, le grand événement cartésien, ça a été l'invention de la subjectivité. Hein, c'est le premier philosophe qui est véritablement dit je, c'est-à-dire que quelque chose qui vous renvoie, enfin ça fait écho d'ailleurs au texte que nous avons entendu tout à l'heure, hein, de Pontalis, c'est-à-dire aussi là, la parole de Rimbaud, je est un autre, si vous voulez. Bon, c'est-à-dire quelque chose qui fait qu'on se prend comme propre objet de vérité, pas simplement de travail. Mais je ferai quand même la nuance suivante. C'est-à-dire qu'il y a un contresens qui est fait quelquefois, peut-être au sens dans le prolongement de Descartes, de dire par exemple, comme vous l'avez dit, l'esprit et le corps sont deux instances différentes, alors que c'est la même instance. Hein. Il n'y a pas de différence entre les deux. On est obligé de parler des deux instances pour pouvoir travailler, pour pouvoir avancer, parce qu'on est obligé d'analyser, c'est-à-dire de séparer des éléments dans leur complexité pour essayer de les comprendre. Mais dans la réalité, je pense, c'est peut-être tout à fait paradoxal, mais pour un analyste, il n'y a aucune différence entre l'esprit et le corps.
C'est toute la différence entre le mot et la chose.
Mais oui.
Merci, Isibeller. Un grand merci donc Isibeller d'être venu nous voir aujourd'hui pour nous parler de la pratique, de l'analyse. Je renvoie au coffret des éditions Montparnasse, Être Psy, 14 DVD. C'est tout à fait passionnant, en tout cas j'en ai vu quelques-uns, je dois dire qu'aucun n'est décevant, et je renvoie notamment à l'entretien que vous donnez, un entretien en deux temps. On vous voit en 1983 et puis en 2007.